Le Rayon BD, Bérénice Motet de Narbonne, territoire psychique et mutation graphique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture, une émission que nous essayons semaine après semaine de rendre aussi diverse que possible et aussi diverse que l'est la création en bande dessinée, tous les visages, tous les usages, toutes les époques. C'est l'idée du Rayon BD et c'est ainsi que nous pouvons évoquer une fois les violences policières et une autre fois les rêveries de Little Nemo. C'est ainsi que nous recevons des auteurs confirmés et maintes fois récompensés. Ou, comme c'est le cas aujourd'hui, une autrice qui publie sa première bande dessinée. Bérénice Motet de Narbonne, pardon d'avoir fourché sur son nom, sera aujourd'hui notre invitée. Elle publie chez Actes Sud « Quitter la baie », une œuvre à la fois puissante et étrange, comme peut l'être l'adolescence, une œuvre à la fois intime et politique. Nous en parlerons avec elle dans quelques instants. Mais avant cela, nous voulions évoquer le prix Artemisia qui a été dévoilé avant-hier. Le prix Artemisia, créé en 2007 par Chantal Montellier et Jeanne Puchol, récompense chaque année des femmes créatrices de bandes dessinées. Et cette année, c'est une autrice finlandaise, Titu Takalo, qui a été récompensée pour son livre « Moi, Miko et Aniki », paru en France aux éditions Rue de l'Échiquier. Bonjour Nicolas Finet.
Bonjour.
Vous êtes l'éditeur en France, chez Rue de l'Échiquier, donc de cette bande dessinée finlandaise. Bravo pour ce prix Artemisia. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter cette autrice, Titu Takalo, et cette bande dessinée ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Titu, elle est active dans le monde de la bande dessinée dans son pays, en Finlande, depuis de mémoire une douzaine d'années. Et elle a fait paraître ce livre « Moi, Miko et Aniki » dans son pays en 2015. Et il a aussitôt obtenu dans son pays le prix de la bande dessinée de l'année. Et moi, je l'ai découverte un an après lors d'une exposition en Allemagne. J'ai tout de suite été très attiré par ce travail, donc j'ai un petit peu creusé parce que je ne parle pas le finnois, donc je me suis fait aider pour essayer de comprendre de quoi il retournait, et il se trouve que évidemment ça recoupait très 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 précisément ce qu'est le territoire thématique de Rue de l'Échiquier que j'essaie de développer avec ce domaine bande dessinée depuis 4 ans. On pourra sans doute en reparler un petit peu, et donc voilà, j'ai tout de suite pensé que c'était un livre que nous devions publier. C'est la chronique d'une communauté en résistance dans une ville finlandaise qui s'appelle Tampere, qui est une ville importante, une grosse ville qui existe depuis 2 siècles à peu près et qui est un passé industriel et ouvrier très très important. Donc ça a été pendant longtemps en Finlande le principal centre industriel du pays. Et il y a autour de ça, autour cette histoire industrielle, tout un patrimoine bâti qui s'est développé et notamment des constructions ouvrières qui se sont beaucoup beaucoup développées. Et il se trouve, ça c'est ce qui arrive dans beaucoup de pays du monde depuis longtemps aujourd'hui, que ces patrimoines-là souvent sont l'objet de la rapacité des promoteurs immobiliers qui souvent font alliance avec les politiques locaux pour essayer de raser tout ça et essayer de faire à la place surgir ce qu'ils appellent de la modernité. Et à Tampere, comme dans beaucoup d'autres pays et villes du monde, il y a des gens qui vivent et qui se disent que finalement il n'y a peut-être pas urgence à raser tous ces bâtiments anciens et que ça vaut peut-être le coup de se mobiliser autour de ça. Et le livre raconte ça, raconte cette communauté de gens qui partagent cet îlot, donc qui s'appelle le Aniki, cet îlot dans la ville de Tampere qui date d'un peu plus d'un siècle. Hein. Donc c'est des bâtisses en bois qui sont pas forcément très commodes, pas forcément très jolies, pas forcément si simples à habiter, puis qui parfois sont un peu abîmées. Mais ça vaut le coup de se mobiliser parce qu'évidemment il y a une âme dans tout ça, ce que n'ont pas les constructions modernes. Et donc le livre, c'est la chronique de cette résistance organisée par cette communauté de gens qui vivent dans ce quartier pour essayer de repousser les promoteurs et leurs alliés politiques locaux. Et puis en même temps, ça raconte en parallèle l'histoire d'amour qui unit l'autrice, hein, donc parce que c'est très autobiographique évidemment, qui unit Titu Takalo et son compagnon Miko, et et comment leur relation se développe au travers de cette lutte commune. Et puis troisième niveau de récit, c'est aussi une évocation de ce qu'a été cette ville de Tempéré. Donc depuis, enfin, elle commence au Moyen-Âge, mais ça se fait de façon perlée à travers le livre. Et on voit de quelle manière cette ville s'est développée et a développé cette conscience ouvrière extrêmement forte dont il reste énormément de traces aujourd'hui.
Avec en effet des grands passages historiques. Alors vous évoquez, Nicolas Finet, le catalogue de bandes dessinées que vous développez chez Rue de l'Échiquier. Et en effet, on voit bien qu'il y a une cohérence dans ce catalogue qui n'est pas encore très étoffé. Vous publiez assez peu de bandes dessinées, mais beaucoup de livres qui ont pour thème l'environnement, les communautés, l'engagement, les transformations du mode de vie, de nos environnements ruraux ou urbains.
Oui, ce sont vraiment les marqueurs de cette maison hein, qui existe depuis une douzaine d'années. Et moi, j'ai créé, avec Thomas Boulle, fondateur de la maison, j'ai créé ce domaine de bande dessinée à 4 ans avec un cahier des charges assez simple qui était justement de prolonger en bande dessinée cette thématique environnementale, écologique, citoyenne aussi, avec des sujets, tous ces sujets qui sont récurrents maintenant chez nous. Donc on publie entre 4 et 6 livres par an, ce qui est pas mal pour une maison indépendante. Ça fait 4 ans qu'on a commencé et on s'enorgueillit du fait que la moitié du catalogue est féminin. Et ça, dans le monde de la bande dessinée, c'est pas si courant et on en est très content. Ah ben c'est évidemment ce qui fait le lien avec le grand prix Artemisia qu'on vient d'obtenir.
Avec le prix Artemisia, en effet, j'allais y venir, des autrices que vous allez chercher, dont vous allez chercher les œuvres, des autrices japonaises, canadiennes, finlandaises, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, on imagine bien que ce prix Artemisia qui tente à promouvoir la place et le travail des femmes dans le milieu de la bande dessinée est un prix qui vous fait particulièrement plaisir.
Oui, on est super content. D'autant, on avait déjà été en compétition, enfin en sélection pour le prix Artemisia avec Claire Duplan, qui était un des premiers livres que j'avais publié lorsqu'on a commencé le domaine de bande dessinée.
Avec Kamel Jo.
Voilà, qui était un livre féministe
frontal,
très drôle,
voilà, qui prend la question de plein fouet, quoi.
Absolument, absolument. Et donc voilà, on avait déjà commencer à aborder ce thème de l'expression des femmes. Et puis évidemment, ben, je n'ai eu de cesse que de le développer par la suite avec, vous l'avez dit, des autrices d'autres pays, mais aussi avec d'autres autrices françaises. Là, on a une jeune autrice qu'on va publier dans quelques semaines, qui s'appelle Marine de Franqueville et qui raconte une histoire autour de la Terre et de sa transmission.
Merci beaucoup Nicolas Finet. Moi, Miko et Aniki de Titou Takalo, que vous publiez donc aux éditions Rue de l'Échiquier et qui remporte le prix Artemisia. On va continuer à parler des femmes, de la bande dessinée et de certains stéréotypes. Mickey, Tintin et Spirou par les Parisiennes, une occasion pour nous de rendre hommage à Claude Bolling, décédé il y a quelques jours, qui a été le créateur de ce groupe et le compositeur de cette chanson. Alors les choses ont bien changé depuis les années 60, on ne va pas décortiquer tous les clichés qui sont contenus dans le texte de cette chanson, mais il se trouve que l'autrice que nous recevons aujourd'hui, pour parler de sa première bande dessinée, a écrit il y a quelques années, quand elle était élève aux arts décoratifs, un mémoire intitulé « La pilule rouge, les femmes en bande dessinée ». Bonjour Bérénice Motet-Narbonne.
Bonjour Victor, bonjour tout le monde, merci de m'accueillir.
Merci d'être là, pardon encore d'avoir fourché sur votre nom en tout début d'émission. Un mot sur ce prix Artemisia dont vous avez été juré il y a quelques années, c'est un prix important pour la reconnaissance des autrices.
Oui, effectivement, c'est le seul prix en France qui concerne exclusivement qui honore le travail des femmes dans la bande dessinée avant tout. Alors, bien sûr, je pense que c'est un prix très important. Alors, malheureusement, moi, je n'ai pas la chance d'être sélectionnée par ce prix, donc voilà. Mais
Vous le serez peut-être pour une prochaine œuvre.
Un jour peut-être, avec de la chance.
Alors la question de départ de votre mémoire, c'est où sont les femmes? Et vous répondez dans ce mémoire qui est disponible en ligne, qu'on mettra le lien bien sûr sur la page du Rayon BD. Vous répondez en deux parties, une première qui est centrée sur les personnages, par exemple Mickey, Tintin et Spirou, qui sont des œuvres qui ne sont pas, où il n'y a pas beaucoup de femmes. Oui. Et la deuxième sur les autrices. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir aussi bien du côté de l'Europe que du Japon ou des États-Unis. Quand on déplore le manque de visibilité des femmes dans la bande dessinée, on s'entend parfois répondre que on ne peut pas, c'était le cas à Angoulême il y a quelques années, on ne peut pas refaire l'histoire de la bande dessinée. Sous-entendu, l'histoire de la bande dessinée est essentiellement masculine. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Bérénice Mottendarbonne?
Première réponse, déjà, c'est faux. Il y a toujours eu des femmes dans la bande dessinée. Et en fait, mon travail de mémoire aux Arts Déco, c'était avant tout de chercher la vérité dans ce mythe, justement, dans cette fausse information. Et c'est ce qui m'a amené à lire des bandes dessinées, justement, des États-Unis, des BD franco-belges, des mangas, et un peu d'aller chercher depuis la naissance de la BD. Et il y a toujours eu des femmes dans la bande dessinée, dans tous les genres. Donc voilà. Après, pour remettre un peu dans le contexte mon travail de mémoire, le mémoire aux arts décoratifs, c'est avant tout un travail assez personnel. C'est pas un mémoire universitaire normal, en quelque sorte. Ça permet avant tout aussi de se questionner soi-même sur la pratique de notre art. Donc moi, quand j'ai cherché à écrire ce mémoire, je me suis un peu aussi cherché moi-même à travers l'histoire de la bande dessinée, parce que évidemment moi je voulais être autrice de bande dessinée depuis petite, et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que dans les noms connus de la bande dessinée, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler de femmes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prix décerné aux femmes? Mon mémoire, je l'écris en 2016, donc c'était tout juste avant le scandale, en quelque sorte, qu'il y a eu à Angoulême, pendant lequel on s'est aperçu qu'aucune femme n'avait été nominée pour le prix. Donc c'était très d'actualité.
Alors vous dites que c'est un travail personnel et intime, et en effet vous racontez un peu la lectrice de bande dessinée que vous êtes, que vous avez toujours été. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'on voit que quand vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet, vos goûts et votre façon de lire de la bande dessinée a évolué. Mais je parle en particulier de vos goûts, puisque dans la chanson des Parisiennes, il est question de Mickey, Tintin et Spirou. Alors, on sait que dans Astérix, dans Tintin, dans les Schtroumpfs, la place faite aux femmes est maigre, souvent caricaturale. Mais vous expliquez aussi que certains auteurs que vous aimiez et dont vous continuez à estimer le travail, vous ne les lisez plus avec le même plaisir, et vous citez par exemple Johann Sfar, Edmond Baudouin ou Christophe Blain, et ça c'est un peu plus surprenant.
C'est des auteurs que j'ai beaucoup lus, surtout au lycée, quand j'avais envie d'explorer en lecture le roman graphique et justement ce que la BD pouvait donner en tant qu'art sous toutes ses formes, et en tant que poésie. Et c'est sûr que en lisant beaucoup beaucoup de romans graphiques, je me suis rendu compte que finalement on me donnait beaucoup à voir la même vision du monde, qui était forcément une vision d'homme d'un certain âge, qui du coup a souvent un certain point de vue sur les femmes, notamment par exemple des hommes qui vont énormément parler de muses ou de femmes mystères, le mystère féminin.
Et l'éternel féminin.
Exactement, l'éternel féminin. En fait, ils installent aussi un certain cliché par rapport à l'image de la femme. Mais en fait, je me suis surtout rendu compte que cette littérature-là était très très accessible et que j'avais du mal à trouver d'autres livres qui partagent d'autres visions, en fait. Tout simplement parce que les autres livres étaient moins mis en avant. En fait, le travail d'autrice ou juste d'auteurs qui ont des points de vue un peu différents de cette grande vision hégémonique était un peu plus difficile d'accès, quoi. Il faut vraiment chercher pour aller trouver quelque chose de différent.
Et vous vous lancez aujourd'hui vous-même en tant qu'autrice dans la bande dessinée avec Quitter la baie, dont on va parler maintenant. Mais on va commencer d'abord par entendre un petit extrait d'un film d'animation, un film que vous avez réalisé quand vous étiez également aux Arts Déco et qui s'appelle Astral.
Magda, t'es encore debout ? T'es trop petite pour veiller aussi tard. Va te coucher maintenant, t'as école demain.
Mais maman, pourquoi tu lui dis rien à lui ?
Et laisse ton frère tranquille, il est grand maintenant. File te coucher.
Astral, un film d'une douzaine de minutes que vous avez réalisé quand vous étiez aux Arts Déco, Bérénice Montaigne-Narbonne, qui est visible également librement sur Internet. Le lien sera sur la page du Rayon BD. Un film en stop motion. Alors on ne va pas raconter ce film, qui d'ailleurs est difficilement racontable. Ce qu'on peut dire, c'est pour ça qu'on le passe, c'est que les personnages de ce film sont aussi ceux de Quitter la baie, que vous publiez cette année aux éditions Actes Sud.
Oui, c'est ça. En particulier l'héroïne Magda, c'est la même héroïne que j'ai choisie pour mon film en stop motion, qui était mon film de diplôme aux Arts Déco.
Alors présentez-nous un peu cette Magda.
Alors cette Magda, c'est une jeune fille qui vit dans un bel endroit qui s'appelle La Baie, et qui pour moi est un endroit imaginaire mais inspiré de plusieurs paysages plutôt de campagne semi-urbaine française. Et pour moi, Magda, c'est un personnage qui a un lien très très fort avec son enfance, avec son environnement, et qui, lorsqu'elle voit son environnement se faire transformer, elle-même expérimente ces transformations. Et
dans son corps, vous voulez dire,
parce que elle vit très fort, c'est ça, dans son corps. Mais
vous n'avez pas dit que c'était une adolescente. Elle a 14 ans à peu près.
Oui, c'est ça. Elle a 14 ans, c'est une jeune adolescente.
Et alors, pendant que vous évoquez cette baie, il faut dire quelque chose de cette baie. Quitter la baie, c'est le titre de votre bande dessinée. C'est une baie qui tient à la fois de votre région d'origine à vous. Vous venez du Berry. Alors, il y a un petit jeu de mots, le Berry en anglais, la baie. Est-ce que cette baie, c'est un Berry qui serait transposé au bord de la mer?
Oui, exactement. Bah, en fait, vous l'avez bien expliqué, je pense. La baie, le Berry, pour moi, ça représente le lieu de mon adolescence. Alors, moi, je ne suis pas le personnage de Magda. Magda, c'est vraiment un personnage de fiction que j'ai inventé et qui me sert à raconter une certaine histoire beaucoup plus portée sur l'environnement, je pense, que l'adolescente que moi j'étais. Mais oui, en effet, en fait, pour moi, la baie, c'est ce lieu qui représente l'attachement au sol. Et cet attachement, il est créé par les liens qu'on tisse avec les êtres qui nous sont chers et surtout nos rêves. Donc, c'est ce que j'ai voulu aussi insufflé dans le personnage de Magda.
Donc ce territoire, qui est donc aussi un territoire psychique, un territoire du rêve, un territoire des visions aussi, c'est un territoire qui s'urbanise, qui s'enlaidit, on peut dire, qui se dévitalise également dans ce livre.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai voulu, à travers le personnage de Magda, je voulais parler d'un sujet qui me touche énormément, c'est celui de la solastalgie, c'est-à-dire la nostalgie d'un territoire en transformation, d'un environnement qui change et qui va peut-être perdre de sa qualité, de ses qualités qu'on aimait. Et aussi, je pense que personnellement, en tant que fille issue d'une famille franco-vietnamienne, je pense que les histoires de déracinement me touchent beaucoup, et qu'à travers ces personnages, je pense que je voulais exprimer ce que c'est que de chercher en fait un endroit où on se sent bien, où aussi exprimer ce sentiment d'être chassé aussi d'un endroit où l'on se sent bien, enfin ce rapport à la terre, en tout cas le rapport émotif à la terre. Et pour ça, les deux personnages que j'ai créés, Magda et Gaëlle, pour moi, représentent ce genre de rapport. Pour moi, Magda, par exemple, c'est un personnage... Elle est née dans la baie. Elle ressemble beaucoup à la plupart des adolescents de la baie. Et comme tous les adolescents de cette campagne, elle doit partir faire ses études dans une grande ville. Donc, elle a cette obligation un peu sociale de partir, de quitter l'endroit qu'elle aime, où elle a tous ses souvenirs, où elle a son environnement. Et pour moi, le personnage de Gaëlle, qui est le personnage, enfin, son ami dans le livre, lui, c'est plutôt un personnage qui n'a jamais vraiment trouvé sa place dans cette baie, qui a toujours été considéré comme un étranger. Même quand il revient, il est toujours vu comme un étranger. Il ressemble pas trop aux adolescents d'ici. Donc voilà.
Alors il y a...
Oui.
Allez-y.
En fait, je voulais parler d'une figure que je trouve assez importante dans mon livre. C'est la figure... Le lieu de la cabane, pour moi, qui est vraiment le lieu, en fait, dans la baie, qui réunit ces deux personnages, et même ces trois personnages, en comptant le frère de Magda aussi.
Qui fait le lien entre Magda et Gaëlle. C'est l'ami de Gaëlle et le frère de Magda.
Oui, c'est ça. Il y a une sorte de promesse, en fait, entre ces trois adolescents qui se créent dans ce lieu-là, qui, pour moi, est vraiment un lieu très important dans l'histoire, parce qu'il est une sorte de... d'utopie localisée, en fait. C'est un lieu à la fois un idéal un peu romantique, un peu survivaliste. C'est l'espace qui est un peu stable depuis leur enfance, l'espace construit par le grand-père, qui est la figure d'adulte aimante du livre, et dans lequel les enfants se réunissent pour lire des bandes dessinées, donc pour passer un moment intime de lecture... Bref, l'endroit où ils peuvent rêver librement.
Donc, Quitter la baie, c'est votre première bande dessinée, je le dis, Bérénice Montaigne-Narbonne. Est-ce que quand on a beaucoup lu de la bande dessinée, comme vous, quand on l'a étudiée aussi, quand on a pris position, comme vous l'avez fait dans votre mémoire, certaines positions, est-ce que c'est difficile de se lancer? Est-ce que vous êtes parfois senti... intimidé par tout ce que vous connaissiez, par le travail de toutes celles et tous ceux que vous avez étudiés et qui vous ont précédé?
Oui, c'est vrai. En fait, déjà, j'ai dû prendre de la distance avec mes activités militantes, telles que avec Artemisia, parce que j'avais besoin de me concentrer sur ce que je voulais vraiment dire, moi, sur ce qui était ma propre voix et sur ma vision, en fait, artistique. Et en fait, je pense qu'on a besoin de phases d'introspection quand même pour écrire une histoire. Et donc, oui, c'est assez intimidant, oui. Après, moi, j'ai surtout voulu écrire quelque chose qui me ressemblait, donc sans du tout être particulièrement autobiographique, mais je voulais vraiment juste donner une place à mon univers, à mon imaginaire, à des choses que je pense, parce que je pense que ce qui est important, enfin la conclusion de mon mémoire, là où j'en étais arrivée, c'était surtout de me dire que finalement, c'est pas la vision en soi des auteurs de romans graphiques, c'est pas leur vision qui me dérangeait, c'est le fait que on nous donne souvent à lire la même vision, donc ce qu'on peut faire de mieux, c'est de proposer des nouvelles fictions, des nouvelles histoires très personnelles qui nous ressemblent, et ainsi proposer plus de diversité en fait dans les lectures de bande dessinée.
Et c'est vrai que cette œuvre est, je le disais, à la fois politique, puisqu'elle parle d'enjeux qui sont des enjeux communs, et à la fois on le sent bien et on le voit merveilleusement très personnel. Alors il y a cette question du territoire et de cet espace qui s'en est dit, mais il y a la question de l'éveil à la sexualité, et puis on sent des goûts que vous avez, le goût de la danse, le goût des rêves rêverie, le goût du silence aussi, puisqu'il y a beaucoup de pages muettes, comme dans votre film Astral, il y avait beaucoup de moments muets. Mais ce qu'on sent bien en vous lisant, en tout cas, Bérénice Mottel-Narbonne, c'est que la bande dessinée est le médium qui vous permet véritablement d'exprimer tout cela et que vous faites confiance à ce médium.
Oui, c'est vrai. Bah, je trouve que la bande dessinée, c'est vraiment un médium incroyable. On peut faire passer énormément d'émotions. Et moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était vraiment de réussir à transmettre comme ça des émotions à travers une histoire qui serait pas classique. Et j'ai reçu de très bons retours de jeunes lecteurs qui m'ont dit avoir aimé se plonger dans la lecture, déjà que c'était pas forcément quelque chose de facile pour eux, et donc d'avoir déjà de réussir à créer ce moment intime qui est le moment de la lecture chez quelqu'un, pour moi c'est important. Et aussi certaines personnes m'ont dit qu'à la lecture de Quitter la baie, elles avaient comme senti des odeurs ou ressenti parfois des musiques. Enfin, en gros, ça crée des liens chez les gens et voilà, je trouve ça assez magique.
Et c'est vrai que c'est un dessin, une lecture qui laisse la place au lecteur. On se perd volontiers à la fois dans le rythme, la narration. Une question justement sur tous les partis pris formels. Alors c'est une grosse bande dessinée, oui, de 220 pages. En noir et blanc, et avec une grande diversité dans les découpages, dans la mise en page, dans les cadrages. Est-ce que tout ça, il y a quelque chose d'improvisé là-dedans, ou est-ce que c'est pour chaque page, parce qu'il y a une grande diversité de styles, est-ce qu'à chaque fois c'est tout à fait pensé, ou est-ce que vous y allez un peu à l'instinct?
Je pense qu'il y a un peu des deux, ça dépend ce que je dois transmettre, si c'est plus informatif ou si c'est plutôt de l'ordre de l'émotion. Pour ce qui est de l'ordre de l'émotion, je pense que je laisse plutôt l'instinct parler et là je travaille beaucoup avec des pages que je fais d'abord en écriture automatique et qu'ensuite je vais recopier, reprendre justement les cadrages, le découpage. Après, moi par rapport à mes influences graphiques, c'est vrai que quand j'étais enfant, je lisais énormément de mangas et de bandes dessinées, donc j'ai vraiment cette culture métisse, en quelque sorte, cette expérience de lecture double, parce que je trouve que les codes de la BD, le rythme de lecture de la BD franco-belge et du manga sont pas tout à fait les mêmes, mais sont pas incompatibles. Donc il y a aussi sans doute une sorte de mélange qui est peut-être un peu étonnant pour un roman graphique.
Est-ce qu'on reverra vos personnages, Bérénice Mottel-Narbonne? Est-ce que vous travaillez déjà à votre prochain livre?
Oui, bien sûr. Alors, on va revoir les personnages car je suis en train de travailler sur une suite qui se passera dans la ville évoquée dans Quitter la baie, donc la ville de la métastation. Donc, ce sera un livre qui abordera vraiment le sujet de la ville et je pense qu'il parlera toujours de ce rapport à l'espace et au droit de vivre, disons, dans la dignité, dans un espace. Et là, ce sera l'espace de la ville.
Eh bien, on est très, très impatients de découvrir ça. Merci beaucoup, Bérénice Mottel-Narbonne. Quitter la baie est donc paru chez Actes Sud. Votre mémoire, La pilule rouge, Les femmes en bande dessinée et votre film Astral sont disponibles en ligne librement. Tout ça sera indiqué sur la page du Rayon BD sur franceculture.fr. Sur cette page, vous pouvez également réécouter cette émission, la télécharger ainsi que toutes les précédentes. N'hésitez pas, vous pouvez aussi faire tout cela sur l'application Radio France. Le Rayon BD était comme chaque semaine préparé par Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Jost, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Dans quelques instants, vous retrouvez Charles Danzig pour Personnage en personne.